Chapitre 5. Comment expliquer la prolifération des jobs à la con ? Une légende populaire raconte que les natifs des îles Scilly parvenaient à vivre une existence précaire en lavant le linge les uns des autres. Obscure plaisanterie du 19e siècle. Les îles Scilly existent bel et bien au large des Cornouailles, permettant ainsi un jeu de mots avec « Scilly » qui signifie « stupide ». Un paradis bourgeois va advenir dans lequel tout le monde sera libre d'exploiter qui bon lui semblera, sauf qu'il n'y aura personne à exploiter. Finalement, on doit supposer que le modèle de la société socialiste serait cette ville dont j'ai entendu parler, dont les habitants gagnaient leur vie en lavant le linge les uns des autres. William Morris, 1887. Si les emplois oiseux que nous avons décrits jusqu'ici existaient sous une forme ou une autre depuis toujours, ou même depuis l'aube du capitalisme, ce serait déjà alarmant. Mais la situation est encore plus désespérée que cela. Tout indique que le nombre total de jobs à la con, et a fortiori la proportion de jobs considérés comme tels par ceux qui les occupent, est montée en flèche ces dernières années, parallèlement à une bullshitisation accélérée des emplois utiles. En d'autres termes, cet ouvrage ne traite pas d'un aspect du monde du travail qui aurait été négligé jusqu'alors, mais d'un véritable problème social. Sur toute la planète, les économies sont devenues de gigantesques machines à produire du vent. Comment en sommes-nous arrivés là, de surcroît, au milieu d'une indifférence quasi générale ? Je pense que si cette évolution a été peu étudiée, c'est parce qu'elle incarne précisément ce qui est censé ne pas se produire dans notre système économique actuel. Comme on l'a vu, le fait que tant de gens se sentent si malheureux à être payés à ne rien faire remet en cause nos présupposés élémentaires sur la nature humaine. Quant au fait que tant de gens soient effectivement dans la réalité payés à ne rien faire, il défie notre compréhension commune des économies de marché et de la façon dont elles sont supposées fonctionner. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les régimes socialistes étatisés, s'efforçant d'atteindre le plein emploi, ont mis en œuvre des politiques publiques qui consistaient purement et simplement à créer des jobs factices. Leurs rivaux sociodémocrates d'Europe et d'ailleurs n'ont pas été en reste, lestant leur administration de fonctionnaires et de contractuels surnuméraires quand ils n'instauraient pas des programmes visant explicitement à inventer des emplois de pure forme, à l'image de la Work Projects Administration, WPA, au plus fort de la Grande Dépression aux États-Unis, qui a lancé une politique de grands travaux qui permettait de fournir des emplois aux chômeurs. En théorie, l'effondrement du bloc soviétique et les réformes de marché engagées à l'échelle mondiale dans les années 1990 devaient mettre fin à tout cela. Si en URSS on ironisait en disant « on fait semblant de travailler, ils font semblant de nous payer », le nouvel âge néolibéral, lui, était censé n'être que rentabilité et efficacité. Pourtant, les situations d'emploi qu'on observe aujourd'hui semblent indiquer exactement le contraire. Si personne n'a rien remarqué, c'est donc d'abord parce que les gens refusent de croire que le capitalisme puisse produire de tels résultats, même si ça les oblige à considérer leur propre expérience et celle de leurs proches comme des sortes d'anomalies. Une autre raison tient au discours profondément trompeur que nous avons développé sur les évolutions de la structure de l'emploi. Depuis les années 1980, on ne peut aborder ce sujet sans entendre parler de l'économie de services. La grande tendance, en particulier dans les pays riches, serait à un recul constant des secteurs de l'agriculture et de l'industrie et à un gonflement tout aussi constant de celui des services. Entre 1840 et 2010, on constate aux États-Unis que la part de la main-d'œuvre du secteur tertiaire, des services, bondit de 20 à près de 80%. Tandis que celle de l'agriculture s'effondre de près de 70% à 3-4%. On considère souvent que la baisse de l'emploi dans l'industrie qui, par parenthèse, n'est pas si marqué que cela dans le cas américain, puisqu'en 2010, on était revenu à un niveau à peu près équivalent à celui qu'on connaissait à la veille de la guerre civile, résulte simplement des délocalisations d'usines dans des pays pauvres. Ce n'est qu'en partie exact. La preuve, les mêmes tendances générales de répartition de la main-d'œuvre s'observent dans les pays vers lesquels les emplois industriels ont été exportés. C'est le cas en Inde. Le vrai problème ici tient au concept même d'économie de service. Notez bien les guillemets. Dire d'un pays que son économie est dominée par le secteur des services tend à donner l'impression que ses habitants gagnent principalement leur vie en servant des lattés frappés à leurs semblables ou en repassant leurs chemises. Évidemment, c'est très éloigné de la réalité. Mais alors, que font-ils ? Quand les économistes parlent d'un quatrième secteur, ou secteur quaternaire qui s'ajouterait à ceux de l'agriculture, de l'industrie et de la fourniture de services, ils le définissent généralement comme le secteur FIRE, Finance, Insurance, Real Estate, Finance, Assurance, Immobilier. Pourtant, en 1992, Robert Saxton Taylor, spécialiste des bibliothèques et des sciences de l'information, a suggéré qu'il serait plus judicieux de le définir comme le secteur du travail lié à l'information. Ses résultats sont éloquents. Si l'on considère l'information comme un quatrième secteur, l'on constate qu'il est celui qui prend, depuis les années 60, le plus d'importance avec environ 50% de la part de main-d'œuvre contre environ 30% pour le secteur de l'industrie et 20% pour ce qu'il reste du secteur de services. L'agriculture ne représente plus qu'une part mineure de la main-d'œuvre. Même en 1990, la proportion de la main-d'œuvre totale représentée par les serveurs, coiffeurs, vendeurs et professions similaires était très faible. Elle est aussi restée remarquablement stable dans le temps, puisqu'elle s'est maintenue pendant plus d'un siècle à environ 20%. La part du secteur des services qui s'est accrue, un accroissement spectaculaire qui a démarré dans les années 1950, est composé en majorité d'administrateurs, de consultants, d'employés de bureau, de comptables, de professionnels de l'informatique et autres activités de ce genre. Bien que personne, à ma connaissance, n'ait prolongé l'analyse de Robert Taylor jusqu'à aujourd'hui, il paraît raisonnable de penser que cette tendance au gonflement du secteur de l'information s'est poursuivie et que le gros des nouveaux emplois de services introduits dans l'économie relève de cette catégorie. Or, c'est précisément le champ dans lequel prolifèrent les jobs à la con. Naturellement, cela ne signifie pas que tous les travailleurs de l'information pensent que ce qu'ils font est du pipeau. Rappelons que Taylor inclut dans cette catégorie les scientifiques, les enseignants et les bibliothécaires, ni que tous ceux qui estiment avoir un job à la con sont des travailleurs de l'information. Cependant, il ressort de nos enquêtes que, de l'avis d'une majorité des salariés de cette classe, la disparition de leur boulot ne changerait quasiment rien à la face du monde. Ce point me paraît très important dans la mesure où, malgré l'absence de statistiques, les discussions vont bon train depuis les années 1990 à propos de la multiplication des emplois tournés vers l'information et de leurs effets sur la société. L'ancien secrétaire américain au travail, Robert Reich, a évoqué la montée d'une nouvelle classe moyenne d'analystes symboliques, des technophiles qui menaceraient d'accaparer tous les bénéfices de la croissance en laissant les masses laborieuses de l'ancien temps croupir dans la pauvreté. D'autres ont parlé de « travailleurs de la connaissance » et de « société de l'information ». Certains marxistes ont même développé une théorie selon laquelle la création de valeur résiderait désormais principalement dans les nouvelles formes de travail immatériel dérivant du marketing, du divertissement et de l'économie numérique, mais débordant de plus en plus sur nos vies quotidiennes saturées de marques et obsédées par les smartphones, ce qui les a conduits à prophétiser une inéluctable rébellion du prolétariat numérique. À l'époque, il était presque unanimement admis que la prolifération de ces jobs était liée à l'essor du capitalisme financier, même s'il n'y avait pas de consensus quant à la nature de ce lien. Il paraissait juste logique de penser que, puisque Wall Street tirait de moins en moins ses profits d'entreprises dédiés au commerce et à la production, et de plus en plus de la dette, de la spéculation et de produits dérivés financiers sophistiqués, une proportion croissante de travailleurs devait désormais gagner leur vie en manipulant des abstractions similaires. On a tendance à oublier aujourd'hui l'aura quasi mystique dont s'était entouré le secteur de la finance avant 2008. Ses promoteurs avaient réussi à convaincre le public, ainsi que de nombreux chercheurs en sciences sociales, je m'en souviens bien, que à travers des instruments comme les obligations adossées à des actifs ou les algorithmes de trading à haute fréquence, si complexes qu'ils ne pouvaient être compris que par des astrophysiciens, ils étaient parvenus, tels des alchimistes modernes, à créer de la valeur comme on monte des blancs en neige à partir de rien. Puis est survenu l'effondrement. Et on a découvert que la plupart de ces trucs n'étaient que des attrape-nigauds. Pour beaucoup, même pas très élaboré. En un sens, on pourrait dire que le secteur de la finance dans son ensemble est une escroquerie. Il prétend que son rôle consiste majoritairement à orienter les investissements vers des débouchés rentables dans le commerce et l'industrie, alors que cela ne représente qu'un infime pourcentage de ses activités. Une part écrasante de ses profits découle de sa connivence avec les gouvernements pour créer, puis échanger et manipuler diverses formes de dettes. Tout comme la finance n'est que de la poudre aux yeux, je soutiens qu'il en va de même de la plupart des jobs du secteur de l'information qui ont accompagné son essor. Nous en revenons à la question posée au chapitre précédent. Si ces jobs sont des arnaques, qui arnaque qui exactement ?